Tutse mu gitondo naborewe internet miliyoni majana bari kuri internet
cheminyele internet cheminyele internet cheminyele internet cheminyele.
Vous parlez français?
Vous faites quoi là?
Ah, vous êtes le chef?
Il n'y a pas de chef ici.
Vous êtes bien avec Vogel les Mouettes, en direct depuis le 47e festival du cinéma de Douarnenez. En partenariat avec Transistor, retrouvez-nous entre 13h et 14h sur la place du festival et en rediffusion à 18h sur le 100.4 FM.
L'on diria que sen pas contents, nau sen pas pus, ni nei, ni tu cantalas, cansui d'amu cantalas, cansui d'amu.
Les racines de l'arbre puisent l'eau du sol et la libèrent dans le ciel, gonflant les rivières volantes au-dessus de nos têtes et transportant la pluie vers d'autres régions, explique Raimonda Gomez, une autre Beiradera du Xingu moyen qui entretient une relation profonde avec un kapok âgé qui est son voisin. La grand-mère de l'activiste socio-environnementale Eldinei Souaoussa utilisait le fil blanc soyeux qui entoure les graines de kapok à l'intérieur de leurs gousses pour rembourrer les oreillers et les matelas sur lesquels sa famille s'allongeait pour rêver. En Amazonie, il suffit de prononcer le mot Soumaouma pour que tout le monde ait une histoire à raconter. C'est pourquoi nous avons choisi ce nom pour notre plateforme journalistique. Nous voulons raconter des histoires d'ici, en Amazonie. Nous voulons également raconter des histoires d'autres parties du monde, mais d'une manière différente, du point de vue des peuples de la forêt, ainsi que de la science la plus rigoureuse. Nous nous efforcerons de faire en sorte que ces histoires se répandent largement en contribuant à irriguer le débat public et à élargir les rivières volantes d'idées susceptibles d'être converties en actions. Nous croyons au pouvoir de la narration et au pouvoir d'un journalisme qui mérite ce nom parce qu'il est fait de manière éthique, scrupuleuse et indépendante.
Vos gueules les mouettes, une radio collective, associative, alternative, chévere et muy chévere.
Vos gueules tirées. Lesmouettes.com.
On est en direct de la place du Festival du Cinéma pour la 47e édition de ce même festival dédié à l'Amazonie et au peuple de l'Amazonie. Alors autour de cette table, Eliane Brume, journaliste internationale, autrice de l'ouvrage un peu de référence du festival Banzero Okoto et également Wajin Shibai, si je ne me trompe pas dans la prononciation, et l'interprète Erika, je ne connais pas votre nom de famille, Erika Campello, merci beaucoup. Merci Lorraine pour cette lecture du manifeste Soumaouma qui permet d'introduire magnifiquement cette émission. Et aujourd'hui, on va discuter avec nos invités. Et on aura également des chroniques cinéma d'Anaël, parce que nous sommes au Festival du cinéma de Douarnenez. Et si on a le temps, on aura aussi des nouvelles des ouvrières d'usine de Douarnenez avec Lisa Le Tonquer, qui a longuement travaillé avec eux. Et ben c'est parti.
Anything to declare?
Passport, please.
Where from? London.
Ah, soleil d'Espagne.
Next. Sorry, we are closed. Hello, welcome to France.
Wajin, vous êtes photographe, journaliste forêt, membre de la communauté Chipaya. Est-ce que vous pouvez nous présenter la plateforme Soumaouma et les travaux d'enquête que vous y avez menés?
Le site de Soumaouma est une plateforme trilingue. É português, inglês e espanhol. Soumaouma tem três línguas porque a gente entende que O nosso jornalismo tem que ir para além da fronteira do Brasil, que é importante que os outros países que falem essas línguas, que entenda o que está acontecendo no Brasil, e principalmente na Amazônia. Suma Uma é baseado na Amazônia, a redação de Suma Uma é baseado na cidade de Altamira. E a gente entende que é preciso levar, e a gente é um tipo de, como eu posso dizer, ampliar as vozes que estão lá e ampliar as coisas que estão acontecendo na Amazônia, que não é de interesse apenas do Brasil ou das pessoas que moram na Amazônia, e sim dos outros países, das pessoas de outras línguas.
Donc la plateforme, elle est en trois langues, français, portugais, français et anglais. Et ça, c'est très important parce que ces trois langues, c'est pour que les gens comprennent dans ces pays qui parlent ces trois langues, anglais, français et portugais, bien sûr, au Brésil, et pas que, ce qui se passe en Amazonie. Nous, on fait un journalisme au-delà de la frontière. Il faut que les personnes comprennent vraiment tout ce qui est en jeu en ces moments, là-bas, dans la forêt, dans l'Amazonie. On doit amplifier nos voix et le faire en trois langues, c'est très, très important parce que ça va expliquer nos combats et les enjeux de ce moment en Amazonie et dans la forêt.
Vous avez fait une enquête, est-ce que vous pouvez nous en parler, sur la rivière de votre village ?
O rio Iriri, que é o rio que passa banha a minha terra, a terra indígena Chipaia, era um rio. Eu, desde criança, eu escutava os mais velhos, as pessoas mais velhas dizer que era um rio de água cristalina e no inverno ficava marrom. Ao longo, desde 2000, a gente começou a ver que no verão o rio ficava com tom esverdeado. Depois de 2020, a gente percebeu que o rio ficou mais esverdeado ainda do que nos verões passados. E eu fiquei curioso do que estava acontecendo. A gente tinha noção do que podia ser. A gente sabia que podia ser algum tipo de alga. Porém, eu queria investigar melhor e saber como esse esverdeamento do rio impactava, de uma forma mais científica, as nossas vidas. Porque a gente sabia que impactava o esverdeamento do rio. Impedia na hora de pescar, impedia na hora do banho. O meu povo é muito ligado ao rio. Tudo que a gente faz está ligado ao rio. O Iriri faz parte do nosso corpo. Eu acho que eu digo isso no minha reportagem, que o Iriri e o ser Chipai, que é meu povo, não se separam. A gente são seres de um corpo diferentes, mas a gente está entrelaçado em um corpo só. E eu queria investigar como isso impactava cientificamente no modo de vida e na saúde do meu povo.
Donc, je menais cette enquête parce que je voulais savoir qu'est-ce que ça se passait avec la rivière Iriri qui elle baigne notre territoire, mon territoire, qui est le Chipaya. Donc, pour nous, c'était très important parce que moi, j'entendais des personnes plus âgées que la rivière, elle était cristalline pendant toute l'année et juste en hiver, elle devenait marron. Mais depuis les années 2000, elle commençait en été à devenir de plus en plus verte, verdâtre. Et je ne comprenais pas pourquoi de cette couleur. Donc, et à partir de 2020, c'était encore plus fort, le verdâtre de la rivière. Donc nous, on a une liaison, mon peuple, on est deux êtres, la rivière et nous, c'est deux êtres différents, mais on est un être ensemble, un seul corps, mon peuple et la rivière, on fait qu'un seul corps. Donc pour nous, c'est très très important et je ne comprenais pas ce qui se passait. On avait une mince idée qui était liée à une algue, mais moi je voulais comprendre scientifiquement quel était l'impact dans notre mode de vie et dans la santé de mon peuple, et surtout parce que comme on fait un corps sort, on vit de la rivière, on se baigne dans cette rivière, on pêche dans la rivière. Et pour moi, c'était très important de mener une enquête scientifique pour comprendre la couleur, pourquoi la rivière changeait de couleur.
Et vous avez compris pourquoi ?
E você entendeu por quê, compreendeu cientificamente por que o rio estava mudando de cor?
Sim, eu entendi. Eu entrevistei alguns pesquisadores da Universidade Federal do Pará, UFPA, e entendi que o que estava acontecendo é que estava uma floração de uma alga chamada cianobactéria. Essa alga tem rios e ela não é tão forte nos rios, mas ela é mais forte no mar, ela tem mais no mar. Mas o que estava acontecendo? Eu investiguei e descobri que a cianobactéria, a floração dela acontece de uma forma mais agravada, assim, quando há muito nutrientes nessa água. Ou seja, ela se alimenta muito de fósforo e hidrogênio. E o que causa isso? Eu descobri que são os garimpo ilegal que joga esses nutrientes na água e também quando há muita devastação à beira do rio. Ou seja, muito material orgânico está sendo jogado nesse rio, como pasto, que dá comida para o boi, porcos. Então está caindo muito essas coisas no rio, está tendo garimpo ilegal que ajuda nisso. Está trazendo nutrientes para ela e acontece o que chama de bloom, que é a explosão de cianobactérias, que torna o rio verde. E essas algas, a cianobactéria, são tóxicas. Dependendo da floração dela e quanto tempo persiste, ela pode causar danos sérios, tanto para a vida dos seres que estão na água, quanto para quem precisa, de quem está na precisa, como nós, dos peixes. Porque chega um momento que ela impede porque elas são muito importantes, eu tenho que deixar claro, elas são um dos primeiros seres a fazer fotossíntese no planeta, então o planeta só existe hoje por conta delas também. Mas quando essa floração acontece, ela suga todos os nutrientes da água e também impede que a luz do sol penetre a água e não deixa que a luz do sol, as algas que estão no fundo, faça fotossíntese. Então, as algas que estão no fundo não produzem fotossíntese e não tem oxigênio. O que acontece é que os peixes que estão no fundo, eles têm que subir para cima. Nesse movimento que eles sobem para cima da superfície para respirar, eles gastam muito energia e acabam morrendo. Então é por isso que acontece muita morte de peixes nesse processo. Porque eles, ao invés de se alimentar quando chegam em cima, eles querem respirar e morrem de exaustão. Então é essa que aconteceu.
Donc oui, j'ai compris pourquoi la rivière devenait verdâtre, parce que c'était à cause d'une bactérie qui s'appelle cyanobactérie. J'ai fait plusieurs interviews avec des chercheurs de l'Université fédérale du Pará. Et là, j'ai compris que cette bactérie, elle est beaucoup plus forte dans la mer. Mais elle existe dans la rivière et elle peut causer de dommages. Donc, ce qui s'est passé, la cyanobactérie, elle était nourrie. C'est pour ça que la couleur de la rivière changeait, parce qu'elle s'est développée. Pourquoi elle était nourrie? Elle est nourrie par plusieurs facteurs. Le phosphate et l'hydrogène lâché par l'orpaillage illégal au bord de la rivière, mais également tout le matériel organique qui est jeté dans la rivière. Et quand je parle de matériel organique, je me réfère à la déforestation, mais également à la nourriture du bétail, le bœuf et les porcs, les élevages aussi également illégaux. Donc ce qui s'est passé, c'était un bloom, une explosion de l'agrandissement de ces bactéries dans la rivière, Iriri. Et ces bactéries, elles sont très importantes pour la photosynthèse, mais dans cette quantité-là, elles sont toxiques. Pourquoi elles sont toxiques? Parce qu'elles causent des dommages à l'eau. Elles empêchent de la lumière, que la lumière pénètre au fond, qu'elle arrive au fond de la rivière pour les autres algues qui produisent elles-mêmes de l'oxygène pour les poissons. Donc comme les poissons ils n'ont plus d'oxygène, ils doivent monter à la superficie pour respirer, où il y a plus d'oxygène, et là ils s'épuisent, ils meurent. Donc on n'avait plus de poissons, les poissons ont commencé à de plus en plus mourir également, et l'eau.
Bravo et merci pour cette enquête, Wajen. On continue l'émission avec une chronique film d'Anaël. Je te laisse présenter.
Merci Gwendal. Du coup, moi, je vais vous parler du film que je suis allée voir hier. Il s'agit de Moni Kondi, des réalisateurs Tolin Alexander, Sy Brendehan et Lonnie Van Brummelen. Donc c'est un film néerlandais, mais qui est tourné à cheval sur le fleuve Maroni, entre le Suriname et la Guyane française. On y suit Bogi, qui est batelier, et qui, avec sa longue barque de 18 mètres, assez modestement rafistolée, va ravitailler les communautés indigènes le long du fleuve Maroni. Et donc, le chemin est fort périlleux. C'est vraiment un film d'eau et de forêt, et donc on le suit à travers ces allers-retours en fait entre les villes et les campagnes, et à travers toutes ces communautés qui sont vraiment archipélisées le long du fleuve. Donc on rencontre des communautés Nduka, Pamaka, Alaku, parmi celles que j'ai retenues. Et ces populations, en fait, se sont retrouvées là, notamment parce qu'elles ont été repoussées au moment du colonialisme. Donc au Suriname, c'est des colons néerlandais, et en Guyane française, la colonisation française. Et donc, elles sont tout à fait isolées. Elles ont été isolées par la colonisation, et aujourd'hui, elles sont isolées par le capitalisme. En fait, on traverse effectivement ce fleuve, on traverse ces forêts, on rencontre ces communautés, mais ce dont parle essentiellement Moni Kondi, c'est vraiment d'argent. Pendant tout le film, on se rend compte que l'argent, le capitalisme a complètement modifié leur manière de vivre, leur manière de transactionner, d'échanger et donc de survivre. Bogi leur amène à la fois des légumes, de l'eau potable et de l'essence. Et donc à travers tout le film, on rencontre différentes communautés, et le film est vraiment rythmé aussi par des chansons qui viennent raconter de manière très concrète la difficulté que ces communautés ont à vivre, que ce soit par l'isolation, par la présence de la monnaie occidentale. Donc en Guyane française, on paye en euros, et au Suriname, on paye avec le dollar du Suriname. Et aussi, la difficulté est liée à l'orpaillage. Donc sur tout le lac Maroni, il y a énormément d'exploitation pour l'or. Et on voit, il y a une séquence qui est assez explicite, où on voit ces énormes tractopelles qui sont en train de gratter la terre et de chercher de l'or. Voilà, je vais être assez brève parce que je m'en mêle un peu, mais c'est un film assez... c'est vraiment très beau. On a un format très large qui évoque le scope et qui donne vraiment la dimension de ce fleuve et de sa dangerosité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le fait, la manière dont a été fabriqué le film. Donc le film, il y a 5 langues que j'ai oublié de noter. Donc de mémoire, il y a du créole, il y a du français, il y a un peu de chinois. En tout cas, c'est une manière de montrer que le film travaille un territoire qui est lui-même habité par tout un tas de différents peuples, et notamment par une immigration plus récente dans les années 80, une immigration chinoise, une immigration du Brésil. Et le processus de fabrication est très intéressant, vu que Tolin Alexander, qui est une des co-réalisatrices, est originaire d'une des communautés filmées dans le film. Et le film a été préécrit à 3. Et ensuite a été vraiment développé avec toutes les communautés sur place. Et une fois le tournage achevé et une première version du montage achevée, ils sont retournés montrer le film et ont retravaillé la forme finale du film basée sur les retours qu'ont fait les communautés. Donc au final, ça commence comme un film à 6 mains et ça termine par un film un peu peuple. Et voilà. Je vous encourage à aller le voir. Il sera rediffusé jeudi à 21 à 19h30 à Goulien, à la Maison du Vent, et vendredi 22 à 20h45 à La Balise. Et les réalisatrices seront là.
Regueule les mouettes, la voix du goéland.
Regardez la voix, bande d'enfoirés.
Vogueule-lesmouettes.com.
On est toujours sur la place du Festival du cinéma avec Vogueule les mouettes et Transistor.bzh. L'émission sera rediffusée à 18h sur les ondes de Transistor.bzh. Merci à Naël pour cette chronique sur ce film qui a l'air vraiment bien. Et donc qui voilà, vous a redonné les horaires. Donc jeudi à Goulien et vendredi à Douarnenez à la Balise. Je n'ai pas les horaires précis, mais vous pourrez regarder sur le programme. Et je rappelle également que nous sommes diffusés sur le 100.4 FM avec transistor.bzh. Je reviens vers nos invités. Et pour continuer, c'est merci d'être là d'ailleurs. Et je vais vous présenter un peu Eliane Broom. Donc vous êtes journaliste internationale. Vous habitez en Amazonie, à Altamira. Vous avez écrit cet ouvrage qui sert un peu de fil conducteur au festival Banzero Okoto. Et il y a une phrase qui m'a marqué, et j'ai envie d'entrer directement dans le vif du sujet avec cette phrase. Vous dites que la guerre climatique en Amazonie, c'est une guerre concrète, c'est une guerre concrète entre des hommes. Alors, est-ce que vous pouvez me redécrire cette phrase et la situation et qui sont les antagonistes en fait de cette guerre climatique entre des hommes?
Seu livro me marcou muito e teve uma frase muito importante onde você fala que a guerra climática na Amazônia ela é concreta, é uma guerra entre homens. Você poderia explicar essa guerra climática entre homens e quem são os protagonistas dessa guerra?
Bonjour. Primeiro eu queria dizer que foi muito emocionante ouvir o manifesto, uma parte do manifesto de Sumauma em francês aqui na rádio. E a gente vai compartilhar isso na Amazônia.
Donc tout d'abord, j'aimerais dire que c'était très émouvant d'entendre le manifeste Sumauma en français et on va partager cela en Amazonie.
Bom, Sumauma é uma plataforma de jornalismo feita a partir da Amazônia em três línguas, né, como o Aya já contou. E a gente entende que somos correspondentes de guerra, porque estamos numa guerra. É claro que as guerras que usualmente a gente fala são guerras terríveis como a da Ucrânia, como a guerra, o massacre, o genocídio que Israel produz em Gaza, como a guerra terrível do Sudão, muito menos no noticiário do que deveria. Mas tem uma guerra que é a guerra movida contra a natureza, que é uma guerra que começa há mais de 500 anos atrás, quando os colonizadores chegaram ao que chamariam América. E essa guerra, ela, que é o momento em que se separa, em que o homem se separa, o homem mesmo, o gênero aqui é proposital, o homem se separa do humano, o homem se separa da natureza e passa a considerar a natureza um recurso. Essa guerra é uma guerra que produziu o colapso do clima e da biodiversidade, está produzindo a destruição da Amazônia, cada vez mais perto do ponto de não retorno, assim como a destruição de outros biomas, está nos levando ao colapso e é uma guerra que irá além das nossas vidas.
Sumauma é um portal de jornalismo a partir da Amazônia, em três línguas, como a été dit, et nous, on se considère des correspondants des guerres. On est au milieu d'une guerre. Peut-être, évidemment, ce n'est pas une guerre comme en Ukraine, ce n'est pas le génocide que l'État d'Israël produit aujourd'hui en Palestine, ce n'est pas comme la guerre du Soudan, qui est de moins en moins dans la presse, mais c'est une guerre contre la nature qui a commencé il y a 500 ans, quand les colonisateurs sont arrivés dans ce qu'ils ont appelé l'Amérique. À ce moment-là, l'homme, et moi je tiens à bien préciser, en tant que genre, les gens, hommes, ils se séparent de la nature. La nature n'est plus la nature, il crée une guerre contre la nature parce que la nature devient des ressources pour lui. Et là, c'est le début de l'effondrement du climat, de la biodiversité. C'est là que commence le chaos.
Bom, os protagonistas dessa guerra hoje são as grandes corporações transnacionais que estão destruindo a Amazônia, algumas delas francesas, aliadas às elites extrativistas locais, com os parlamentos e muitas vezes o governo a serviço dessas grandes corporações, né, e da destruição da Amazônia e de todos os biomas. É importante a gente entender que a destruição, tem uma linha de frente, a linha de frente dessa guerra lá na Amazônia, principalmente defendida por povos indígenas, por lideranças indígenas e lideranças de outras comunidades tradicionais. Essa é a linha de frente lá, e lá as pessoas morrem. Mas precisa ter uma linha de frente aqui, na Europa, na França, na Bretanha, uma linha de frente que impeça a Amazônia de ser comida aqui. Porque a Amazônia está no prato da Europa, a Amazônia está no prato da China, a Amazônia está no prato dos Estados Unidos. E é aqui que precisa ser barrado, como diz o xamã Davi Kopenawa, né, que os brancos são comedores de mercadorias, estão comendo o planeta. Então, precisa ter uma linha de frente forte aqui, conectada com as linhas de frente lá, para barrar os comedores de mercadorias que estão comendo o nosso, não é nem o nosso futuro, estão comendo o nosso presente.
Les protagonistes de cette guerre, c'est les grandes multinationales, certaines françaises, les élites extractivistes brésiliennes, certains hommes et femmes, les parlementaires, et aussi parfois même le gouvernement brésilien qui s'allie avec ces personnes. Donc ils détruisent l'Amazonie, ils détruisent les différents biomes du Brésil, par l'Amazonie, et pour contrer cette destruction, il a une ligne de front. Et cette ligne de front, aujourd'hui, elle est ténue, elle est défendue par les leaderships des peuples autochtones, mais pas que les peuples autochtones d'Amazonie, les peuples traditionnels, les communautés traditionnelles, et ces personnes sont tuées. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est un front ici en Europe, ici en France, ici en Bretagne, un front qui empêche que l'Amazonie soit détruite en front commun avec le front là-bas. Parce que, qui empêche que l'Amazonie soit détruite, que l'Amazonie soit dans les assiettes du Nord global, aux États-Unis, en Europe et en Chine. Et il y a un chaman très connu au Brésil qui s'appelle David Kopenhauer, qui dit que les Blancs sont des mangeurs, des marchandises. Et donc, il faut qu'on empêche ensemble, et que cette ligne de front ici et là-bas empêche que le blanc, que le marché mange notre, pas que l'avenir, mais notre présent.
O Brasil é o maior produtor de soja do mundo, e não por eficiência, porque é uma produção de soja, o agronegócio brasileiro é extremamente ineficiente, e essa produção de soja só é possível por conta de ampliação da área da monocultura, ou seja, destruição da floresta e de outros biomas. O custo do Brasil ser produtor de soja é o custo da destruição da floresta, da destruição do cerrado, e só é possível também pelo uso massivo de agrotóxicos, né? Alguns deles vendidos aqui, vendidos para o Brasil, e que voltam para cá em termos de produtos. A soja brasileira alimenta o gado, alimenta os porcos, alimenta os salmões. Então, essa destruição e essa terra envenenada, esses corpos envenenados são comidos por vocês, que são responsáveis pelo envenenamento lá, né, coletivamente, pensando em responsabilidade coletiva. O Brasil é o maior exportador de carne. Hoje, quando a gente fala em Amazônia, no senso comum, se imagina que a Amazônia, se imagina logo onças, imagina jacarés, imagina sucuris, mas o animal mais presente, o animal onipresente na Amazônia hoje é o boi. Né? Numa cidade amazônica, que é São Félix do Xingu, no Pará, no mesmo estado, município próximo, em termos amazônicos, de Altamira, está o maior rebanho bovino do Brasil. São 2,5 milhões de bois, o que dá 38 bois para cada habitante daquela cidade.
O Brasil, aujourd'hui, é o plus grand producteur de soja do mundo. Mas não porque os produtores do agrobusiness são eficazes. Não, eles não são eficazes de tudo. Mas porque a zona de produção é de plus en plus imensa, grande, au détriment de la forêt brésilienne et de d'autres biomasses comme le cerrado. Et aussi également, malheureusement, grâce à l'utilisation massive de pesticides qui retournent ici en Europe, retournent chez vous dans vos assiettes. Par exemple, le soja brésilien produit dans le Cerrado et en Amazonie, il alimente les élevages ici, le bœuf, le porc et les saumons. Et c'est les terres et les corps qui sont empoisonnés là-bas, ils sont également empoisonnés ici. Donc là, dans le principe de co-responsabilité, nous avons une responsabilité collective par rapport à la consommation de la viande de soja, parce que le Brésil aussi, c'est un des plus grands exportateurs de viande au monde. Quand on pense à l'Amazonie, on pense à la panthère, on pense au grand serpent, anaconda, etc. Mais l'animal de l'Amazonie aujourd'hui, c'est le bœuf. Pour vous donner un exemple, le municipe, la commune de São Félix do Xingu, qui n'est pas très loin, c'est dans le même état qu'Altamira, dans l'état du Pará, ces municipes, il a aujourd'hui 2,5 millions de têtes de bétail. Cela donne 38 bœufs par habitant.
Merci beaucoup, Erika, pour la traduction et Eliane. On va lancer une petite virgule où on s'écoute des sons de la forêt. Cette bande-son est tirée du film Uria Arremotada da Floresta, qui est un film sur une artiste queer qui construit ses habits, ses costumes à partir d'éléments naturels de son territoire. J'avais pensé mettre ce son parce que il y a quelque chose qui m'a marqué dans votre ouvrage, mais j'aimerais aussi avoir l'avis de Wagen. C'est, vous dites que l'Amazonie, c'est avant tout une expérience du corps, que en fait, nous autres blancs, on a du mal à le comprendre parce qu'on sépare corps et esprit, et que vous, dans votre parcours de femme blanche, ça a été un choc, mais pas seulement. Vous parlez aussi par exemple des Berradeiros, qui sont des paysans du Nord-Est qui se sont installés en Amazonie et qui ont été, je ne sais pas trouver les mots, mais pas dire dévorés, mais inclus, assimilés, enfin voilà, qui sont aussi devenus peuple de la forêt. Et j'aimerais que vous m'en parliez justement de cette Amazonie comme expérience du.
Bon, je vais commencer et Aya continue. Essa séparation, eu acho que um dos vetores de. Uma das principais causas da destruição da Amazônia, de todos os biomas, do colapso climático, do aquecimento global, é o binarismo. Essa ideia de que ou é isso ou é aquilo, né? E que vem muito, né, muito consolidada, né, por um francês, né, o Descartes, e que é muito responsável pela destruição. Na floresta, na natureza, nós não estamos na natureza, né? Os povos da floresta, eles não estão na natureza. Eles são natureza. Eles não se separaram da natureza. Essa separação da natureza que está na origem do capitalismo, ou seja, o homem se separa da natureza e passa a tratar a natureza como um corpo para invasão, para exploração, para violação. É esse a natureza e um outro, esse binarismo. É o começo do que nos trouxe a esse momento de abismo.
La séparation du corps et de l'esprit, c'est la cause de la destruction et de l'effondrement de l'Amazonie, des biomes, de la nature en général. C'est cet binarisme, ou c'est ça, ou cette séparation entre ça et ça. Et cela a été consolidé par un Français assez connu qui s'appelle Descartes. Et c'est la raison pour, la, pour la destruction de l'Amazonie et des forêts et de la nature en général, parce que pour le peuple de la forêt, ça n'existe pas, il n'est le... Ça, c'est une différence entre en portugais et en espagnol qui n'existe pas en français. C'est la différence entre le verbe être, il est deux en portugais. Donc, les peuples de la forêt, ils sont la nature. Ils ne sont pas en train d'être dans la nature, ils sont dans la nature. Et pour eux, il n'a pas de sens de séparer, ce binarisme ne fait pas sens. Et ce binarisme est dans l'origine du capitalisme qui permet l'exploitation, la violation de la nature et sa destruction.
Na natureza, sendo natureza, esse binarismo não faz nenhum sentido. Se a gente for pensar no que é uma floresta, né? As pessoas muitas vezes imaginam a floresta, que a floresta é um lugar com animais, com plantas, tudo dentro deste lugar. Isso não é uma floresta, isso é um zoológico, né? O mesmo vale para um lugar com várias, né, tipos de plantas, etc. Isso também não é uma floresta, isso é um jardim botânico. A floresta, se a gente for definir floresta é uma relação. Floresta é tudo em relação com. Então, na floresta... Por isso que não faz nenhum sentido essa ideia que vem muito com os, entre aspas, exploradores, né, os viajantes, alguns deles franceses, de que é da natureza virgem. Né, não tem nada menos virgem, ainda bem, do que a natureza. Porque se a natureza fosse virgem, não seria natureza. Porque ela só é possível nessa relação em que tudo é interdependência, troca, intercâmbio, a devoração, tudo está o tempo inteiro em relação com. Isso é uma floresta, isso também aqui é um humano.
Quando on pense c'est quoi la nature, on a une pensée déjà binaire, qui n'a aucun sens. Parce que quando tu dis c'est quoi une forêt, les gens vont dire c'est un lieu avec des animaux et des plantes. Mais non, ça c'est un zoo, c'est pas une forêt. C'est pas la nature. Quand tu penses, mais la forêt, c'est un lieu qui a des différents types de plantes. Non, ça, c'est un jardin botanique. C'est pas la forêt. Donc, la forêt est quelque chose qui est tout le temps en relation avec. Et cette idée binaire ou de zoo ou de jardin botanique, elle arrive avec les voyageurs, explorateurs, avec la colonisation. Et la nature, eux, ils avaient cette idée que la nature était vierge. Mais la nature, elle n'a rien de vierge, heureusement, sinon elle ne serait pas nature, il n'y aurait pas de forêt. Parce que tout est en relation et tous les temps en échange. Et ça, c'est la forêt. Et il y a du monde dans la forêt.
Como é, se a gente pegar o exemplo, o que somos nós? Não existe o humano, por exemplo, e as bactérias que nos habitam e que fazem com que a vida possível. Nós somos também as bactérias. Nós somos uma relação entre vários.
Si on prend nous, les humains, comme exemple, il n'y a pas les humains et les bactéries. Parce que c'est les bactéries qui permettent que la vie existe dans nous et que nous sommes ce que nous sommes en tant qu'humains. Donc la vie, elle est possible grâce à la bactérie. Nous sommes une corrélation entre bactéries. Voilà, c'est nous les humains.
Acho que o meu povo e todos os povos indígenas, nós entendemos que nós não separamos a natureza. Entender que a natureza, as florestas e tudo que constitui ela como floresta, como natureza, também faz, é uma extensão do nosso corpo, é o que nos faz combater e proteger a Amazônia. E no processo, quando o humano... se separa da natureza, é uma situação medíocre que ele se subjuga os outros seres vivos. E nesse processo de separação dos outros seres vivos, leva o nosso planeta ao que está acontecendo hoje. Quando nós nos separamos da natureza como corpo, como nós somos os seres pensantes, acontece esse colapso. Nós indígenas entendemos que nosso corpo é uma extensão da natureza e que nós não estamos acima nem abaixo dos outros seres vivos. Nós estamos no mesmo lugar. No mesma Nós fazemos parte da natureza. Eu digo isso no meu, na minha reportagem do Rio, que nós, Tipaias, somos... Nós, Tipaia e o Rio Iriri, somos seres de corpo diferente, mas entrelaçados como um só. Isso quer dizer dessa correlação e transmutação, que nós podemos ser de corpo diferente. Nós necessariamente não precisamos ter o mesmo corpo. Nós só precisamos entender que nós nos relacionamos com aquele ser vivo, seja ele rio, seja ele animal, seja ele árvore. Nós somos uma extensão da floresta. Nosso corpo é a extensão da floresta. Entender isso salva o planeta, salva a nossa vida.
Mon peuple et tous les peuples autochtones, ils ne séparent pas la nature et les corps. Nos corps, c'est une extension de la nature. Ce qui fait qu'on se bat, on lutte pour la préservation de l'Amazonie, de la forêt. On ne subjugue pas les êtres vivants de la forêt. Parce que ça, c'est une façon de penser médiocre. Nous, on ne sépare pas le corps et la nature. Nous, nous faisons partie, nous ne sommes ni au-dessus, ni en dessous de la nature, de la forêt. Nous faisons partie, on est une partie intégrante de la nature. Donc c'est pour ça que tous les êtres qui vivent dans la forêt, ils ont des corps différents, mais je parle de mon article sur pourquoi ma rivière est devenue verte, comment on est quand même un corps entre des corps entremêlés. Nous sommes tous les temps en relation. Nous sommes en relation avec tous les êtres vivants de la nature. L'être humain, il n'est pas supérieur. Pour nous, notre façon de voir, on fait partie comme les arbres, comme les animaux. Et cette façon de voir, de penser et même de sentir, ça va sauver la planète, ça va sauver nos vies.
Oui, ça va peut-être décaler vers ma dernière question. Vous arrivez tous les deux avec un concept qui est amazoniser le monde, Amazonie centre du monde. Et si j'ai bien compris, c'est ces pensées-là qui naissent sur des lignes de front et que vous avez envie d'étendre, si j'ai bien compris.
Donc cela me permet d'aller vers ma dernière.
Portugais.
É porque às vezes eu escrevo em francês. Eu já vou traduzindo, desculpa. Então, a minha última pergunta, vocês estão me levando para a minha última pergunta. Vocês falam, os dois juntos, estão trazendo aqui para o festival esse conceito, essa ideia de amazoniar o mundo. E nessa amazoniação do mundo é o nascimento dessa linha de frente.
Linha de front, um espaço de... Je me base sur des mots que j'ai lus dans votre livre, qu'en fait, les centres du monde ne sont pas, finalement, vous dites que ce ne sont pas les lieux du pouvoir de l'homme blanc, mais finalement, c'est lieux de résistance. Et j'ai l'impression que vous proposez une extension, un partage de tous ces lieux de résistance.
Oui, donc eu entendi no seu livro que você fala dessas diferentes linhas de frente. Então, essa ideia de Amazônia. O mundo, quer dizer, estender, crescer essa linha de frente juntos em vários lugares do mundo, é isso?
É também isso, mas o que a gente defende é uma recentralização do mundo. Isso significa deslocar os conceitos hegemônicos do que é centro e do que é periferia. Isso significa colocar... nos centros, legítimos centros, por exemplo, os enclaves da natureza. Se a gente está conversando aqui hoje é porque a natureza ainda resiste, senão já não estaríamos aqui. Então, os legítimos centros do mundo é a Amazônia, as outras florestas tropicais, os oceanos, todos os biomas, e não os centros políticos e financeiros onde o colapso é produzido, onde a destruição da natureza é decidida. Ou seja, os centros do mundo é onde está a vida e não onde estão os mercados. Washington, Paris, Pequim, Frankfurt, Londres, para nós são periferias. Por exemplo, quando me perguntaram onde eu estava vindo, para onde eu estava vindo na França, eu dizia Douarnenez. E as pessoas perguntaram, mas tu vai para Paris? Eu disse, não vou para Paris, eu vou para Douarnenez. Mas e onde? Não sei onde fica Douarnenez, estou indo para o centro da França. né? Porque para nós Paris é periferia.
C'est ça aussi. Ce qu'on défend, c'est une recentralisation du monde, c'est revoir les concepts hégémoniques et mettre les vrais centres du monde, les centres légitimes au centre. Donc, c'est-à-dire la nature, la forêt amazonienne, les forêts, toutes les forêts tropicales au monde, les océans, les biomasses, les différents écosystèmes. Pas dans le, parce que les centres politiques économiques qui ont créé et créent toujours l'effondrement ne sont pas le centre du monde. C'est là qu'il faut changer de paradigme. Par exemple, quand je pense à Washington, à Paris, à Pékin, à Londres, pour moi, ce sont des périphéries. Et quand les gens au Brésil m'ont dit « Ah, mais tu vas où ?» Elle disait « J'y vais à Douarnenez ». Ils disaient « Mais ah, donc tu vas en France, tu vas à Paris ?» Elle a dit « Non, je ne veux pas à Paris. Je vais au centre de la France, c'était Douarnenez. Paris, c'est la périphérie. »
Merci beaucoup, Eliane et Wagen. On arrive à la fin de cette émission en direct de la place du Festival du Cinéma avec Vogel les Mouettes et Transistor. On enchaîne avec un petit...
Quatre films qui se passent à Brest, donc vraiment le point commun c'est le lieu Brest. Alors, il y a un film qui est une sorte de reconstitution d'une visite de Jacques Kerouac apparemment, qui est à la recherche de ses ancêtres. Et donc visiblement il est assez alcoolo, quoi. Il boit pas mal quoi, et il erre un peu d'un endroit à un autre. Et donc c'est en noir et blanc, il se balade dans Brest. Et il se trouve que je connais le gars qui joue le rôle de Jacques Kerouac, mais je ne dirai pas pourquoi. Et donc voilà, premier film, j'ai aimé moyennement, je trouvais que c'était un peu laborieux, quoi. Bon, j'ai applaudi quand même. Deuxième film, vachement bien, c'était, le titre, je crois que c'est Léo et son vélo, ou Léo à vélo, ouais, Léo à vélo, donc c'est un jeune en fait qui est encombré par son fils qui est handicapé, non pas son fils, son frère qui est handicapé, il distribue des pizzas à vélo dans Brest. C'est son boulot, quoi. Et il se trouve que son frère s'enfuit et un peu par hasard, il se retrouve avec son frère devant un appartement où il livre une pizza et il se trouve que c'est l'appartement de son ex-copine. Et à partir de là, à partir de la médiation du frère, finalement, il se retrouve, quoi. Donc, je trouvais que c'était assez joli. C'est celui que je retiens le plus. Alors après le troisième, alors j'ai oublié les titres là. C'est une histoire d'amour, c'est un gars, c'est deux gars qui sont homo quoi. Et donc il y en a un qui il est largué quoi, il est largué par son copain. Et en plus son copain visiblement il est assez dévergondé, il a des il drague pas mal donc par le biais d'une application, etc. Alors il est complètement malade à mourir de la séparation quoi. Il essaie de le retrouver à tout prix. Et puis malgré tout, à un moment donné, il finit par croiser un titre, donc il a une aventure avec un autre gars, et à partir de là, il se remet à faire de la musique, parce qu'il a mis des musiciens. J'ai trouvé ça assez joli, c'est une histoire d'amour... alors c'est pas comme si c'était une histoire d'amour hétéro, c'est un peu différent, parce qu'il y a le contexte de la relation amoureuse, homosexuelle, avec les gars qui ont beaucoup d'aventures et tout ça, enfin voilà, bon... Et puis le dernier, c'est... alors, ça s'appelle comment ? Pierrot lunaire, non je sais plus, il y a le mot lunaire dedans, mais je sais plus le... Là, j'ai pas trop accroché quoi.
Vous êtes de Douarnenez ?
Non, on est du côté de Rennes, à proximité de Rennes. Mais on vient depuis longtemps. Puis on est aussi du milieu bretonnant. Donc on est intéressé toujours par les films en breton ou les films faits en Bretagne, ces choses-là.
C'est quoi votre prénom ?
Jean-Michel.
Merci Jean-Michel.
De rien.
Et du coup, une petite précision par rapport aux informations livrées par Jean-Michel. La programmation de courts-métrages réunit une série de films, donc Jacques Kerouac, une piste de Gwendal Kistrober, Malo fait du vélo et pas Léo fait du vélo, de Yannick Muller, Mal de mer de Maël Karadec et Nino Lunaire de Manuel Billy. Et donc, cette programmation sera rediffusée le 22 août à 13h45 à La Balise.
See you.
quoi ce bordel? Qu'est-ce que vous foutez là?
Eh ben, qu'est-ce qu'on fout là? On est au Festival du cinéma de Douarnenez pour la 47e édition. On était avec Eliane Brume et Wajen Kshipai qui nous ont parlé de leur expérience. C'était vraiment super. Et qui est autour de cette table? Il y a Lorraine, Lisa, moi-même, Gwendal.
Coucou.
Et Annaëlle. Et qu'est-ce qu'on a fait ce week-end pendant le Festival du cinéma?
Eh ben moi, dimanche, j'étais avec les ouvrières de Chancerelle, mais au festival aussi. On a projeté le film Demain au boulot que j'ai réalisé l'année dernière. Et ça vous dit que je vous donne des nouvelles des ouvrières de Chancerelle?
Mais oui,
parce que bon, c'est quand même intéressant.
Ouais.
Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait un super temps d'échange à l'auditorium qui avait... Justine, Rachel, Patricia qui sont donc ouvrières à l'usine de Chancerelle qui sont protagonistes du film Demain au boulot qui repasse encore jeudi mais je crois qu'il est complet et elles nous ont raconté un petit peu comment elles n'avaient pas eu besoin de faire grève cette année pour obtenir ce qu'elles veulent et ça c'est quand même super. Donc, pour rappel, l'année dernière elles ont fait une grève, c'était 100 ans après la commémoration des grèves des sardinières qui avaient fait grève en 1924 qui avait obtenu seulement 5 sous de l'heure. En 2024, les filles ont fait grève, les femmes ont fait grève aussi. Elles ont obtenu 1 euro par jour, ce qui n'est pas beaucoup. Mais c'est quand même toute l'usine qui est sortie. Ça fait une dizaine d'années hein, que à l'usine de Chancerelle, donc à Douarnenez, on n'avait pas fait grève comme ça. Que beaucoup de personnes, beaucoup d'ouvrières n'avaient jamais fait grève, en fait. Et beaucoup, là, sur cette grève d'il y a un an, sont sortis, en fait. Toute l'usine est sortie. C'était il y a un peu plus d'un an. Donc, elles ont expérimenté leur première grève et elles ont dit, bon... on a testé, mais c'était un peu un enterrement. On aurait bien voulu chanter, y aller, etc. Et un an après, le rapport de force, il est complètement recréé dans l'usine. Il y a aussi peut-être en lien avec le film, mais aussi voilà, cette grève, elle a beaucoup donné de force et d'espoir aux ouvrières. Et en juin, il y a quelques mois, pour la prime d'intéressement, pour l'avoir à part égale pour les ouvrières et les cadres, parce que je rappelle qu'elles n'étaient pas à part égale, c'est-à-dire que comme c'était au pourcentage, les cadres avaient plus de primes que les ouvrières, ce qui est absolument injuste. Et voilà. Et donc, y a eu cette grève qui a été programmée. Cette fois, c'était 3 jours de grève qui étaient prévus au mois de juin. La veille de partir en grève, alors les saucisses étaient réservées, le barbecue était prêt, les filles avaient répété leur chant. Mais en fait, la direction a cédé la veille de la grève. Voilà. Donc, juste un petit point info pour dire que la lutte est en marche chez les ouvrières de Douarnenez, qui, je le redis, est quand même une ville de cinéma, mais aussi une ville ouvrière. Voilà pour mon week-end. Et toi, Annaëlle, t'as fait quoi?
Ben moi, hier, en parlant de personnes qui s'organisent, qui font des choses ensemble et qui soutiennent des causes qui valent le coup, je suis allée enregistrer le tout début de la chorale Cornita sur la place du festival. Et elles ont un petit message à faire passer à toutes les personnes qui voudraient soutenir le festival.
Oui, c'est à Douarnenez qu'on pêche la sardine. Parmi les par milliers, on les porte à l'usine. C'est un pays charmant. On fait le cinéma, festival engagé depuis bien des années. Si vous voulez soutenir, vraiment n'hésitez pas. Donner à la culture, c'est s'assurer un plus joli futur. Qu'on fête le cinéma, festival engagé depuis bien des années. Si vous voulez soutenir, vraiment n'hésitez pas. Donner à la culture, c'est s'assurer un plus joli futur.
Eh ben, c'est la fin, non?
Oui, c'est ça. Je ne savais pas quoi dire.
N'hésitez pas à soutenir le festival de Douarnenez. Vraiment, on a besoin de vous.
On a besoin de vous. Et je voudrais juste remercier Jean-Louis et Fred à la technique. Et
merci.
Transistor.bz dash pour
la rediffusion
et aussi le matériel.
Sur et vous pouvez nous entendre donc à 18h. Enfin, là, vous êtes en direct, vous êtes les auditeurs de Transistor et vous nous entendez au 100.4 FM. On revient demain avec une émission qui est proposée par Annelle et Lorraine. De quoi on va parler demain ?
Eh ben demain, on parlera de sauvetage en mer Méditerranée avec Alarme Faune et SOS Méditerranée.
Et en Manche également, un peu partout.
Donc on vous redit, hein, nous sommes en réécoute en podcast sur vogel-lesmouettes.com, sur transistor.bzh et tous les jours sur la place du festival, 13h, 14h, plus ou moins, sur la place. Voilà, vous pouvez, on a des bancs, des chaises.
Réservées parce qu'on était complet quand même.
Un public très très en feu, on peut le dire. Et à 18h, en presque direct, sur Transistor, donc au 100.4 FM. On peut entendre de Douarnenez à l'Amazonie. À demain. Et c'est Kokana qu'on écoute.
Nous rappelons que dit le temps, le monde est bien plus content. En avant est venu de travail, ne cantons jusqu'à l'hostal, ne cantons jusqu'à l'hostal. Nous sommes bourriaires et bouillés, tout est canté de alto bois. Los pulidos cansus del país que gaya, volui besis que gaya, volui besis. Turaku, tururaku, turaku, tururaku, nausean luz dali aires pesprats, tutes en colos arengas, tutes cantabum de vivo pues tiran ler, o de pespes tiran ler, o de pespes tururaku, tururaku, tururaku. Nausean luz mes unies pescans, tutes en buten l'urbulan, cantabon lure franja luz del pulit, blatruce luz del pulit, blatruce luz. Nausean din tutes los chantiers, cantamos sus charpentiers. Capres a beir e begut un coupet, ne canta buen entre verset, ne canta buen entre verset. Nausean los pastres darielos mutus, canta las pulidos cansus. Las cansus de la cruz de Mike semblid un pacha Mike semblid un pacha mai. Mes arro al segle del progrés, naus en pas una solo vues, naus en pas plus que l'utri crac de las machinos pespras de las machinos pespras. Pesaro al segle del progrès, naus en pas una solo pues, naus en pas plus que l'utric-trac de las machinos pesprats, de las machinos pesprats. Ah.